Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Les nuits d'After continuent avec Daniel Riolo, Florent Gautreau, Kevin Diaz. Il est minuit 1 à Paris et il est 18h01 ici aux États-Unis. Le Brésil, le Maroc dans quelques instants. Finissons d'abord sur l'équipe de France. Oui, Daniel, je précise ma pensée sur ce que je disais. On a une équipe de France plus jeune que pas mal des anciennes des équipes de France. Effectivement, moi j'ai le sentiment qu'on est passé d'équipe de Daron 98 à aujourd'hui équipe d'adolescents. Alors adolescents, évidemment, à 25 ans. Mais aujourd'hui, les pédopsychiatres considèrent que l'adolescence dure longtemps.
Qu'est-ce que tu fais de 2018 et 2022?
On appelle ça adolescent.
Moi, je dirais qu'on était dans un entre-deux. J'ai l'impression d'une équipe plus jeune, un peu plus immature que d'habitude. Ça peut fonctionner aussi.
J'ai envie d'être d'accord avec toi. Et en même temps, quand on regarde un petit peu plus près, tu as quand même des joueurs dans cette équipe qui ont... Il faudrait faire un bilan sur les joueurs qui ont une expérience et un vécu en bleu. Upamecano était là dans la dernière Coupe du Monde, donc il a fait la finale. Koundé, Hernandez, dans le groupe, il y a de l'expérience. T'as Théo qui joue, Lucas qui joue pas, mais voilà. Mike Maignan, on a Tchouaméni qui était là, Rabiot qui était là, Mbappé qui était là, lui carrément depuis 2018. Oui, alors Dembélé n'a jamais fait briller en équipe de France, mais le fait d'être là et d'avoir été dans toutes les aventures, néanmoins, tu as connu le groupe. Tu sais comment se déroule une compétition, c'est important pour le vécu. Les seuls vrais nouveaux, finalement, c'est qui? C'est Doué, Barcola, Olise, dans les joueurs qui peuvent Cherki. Être importants. Cherki, dans les joueurs. Mais ça, à chaque fois que tu as une grande compétition, tu as toujours une dose de nouveauté. Tu as toujours les nouveaux qui arrivent. Donc, on est quand même... On peut pas dire qu'on est dans une équipe, comme tu l'as dit, d'ados ou de gamins qui doivent découvrir, parce que tu sais, généralement, on dit qu'il y a une compète qui sert à préparer, comme 2014 pour Deschamps, en vue de 2016 et 2018, où tu te fais un peu les dents, tu repères. Là,
96 à l'euro pour 98.
Ouais, souvent, il y avait ce genre de construction, mais là, on est déjà quand même dans
Il y a une compète qui a permis à ces jeunes de se préparer. C'est les JO. Parce qu'il y a beaucoup de ces nouveaux qui étaient au JO, notamment Olise.
C'est pas exactement la même chose,
faire les JO à Paris, c'était quand même un beau truc.
Toujours est-il que finalement, ils sont peu de joueurs où vraiment il y a la découverte de la Coupe du Monde. On reste sur une équipe qui a pas mal d'expérience. Si tu accumules l'expérience des clubs où tu joues dans des grands clubs, des grandes compétitions. Bon, on est quand même très.
C'est pour ça que les Bleus sont favoris.
On est quand même très solide, quand même.
C'est pour ça que les Bleus sont favoris avec l'Espagne.
La seule différence notable, effectivement, c'est pas tant. T'as raison sur l'expérience, parce que ça se mesure pas en termes d'âge. Et Mbappé l'avait bien dit d'ailleurs dans une interview d'après match. Mais c'est plutôt que l'un des plus jeunes, enfin ceux qui apparaît et qu'on a vu au JO 2024, c'est Olise. C'est-à-dire que c'est un joueur majeur offensivement et que lui, pour le coup, il n'a pas l'expérience, on va dire, des grandes compétitions. Il a évidemment la Ligue des Champions.
Tu penses que ça peut jouer en sa défaveur?
Non, mais je ne sais pas, mais comme tu dis, je pense que tous, puisque tu as dit que ça comptait pour tous les autres qui avaient vécu ça, je pense que ce truc-là, mine de rien, la Coupe du Monde, je ne parle pas des matchs de poule.
Hein. S'ils sont beaucoup être dans ce cas, ça peut être un problème. S'ils sont qu'un ou deux, ça va.
Moi, pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème pour un joueur de foot de jouer la Coupe du Monde. Un gars comme Olise, je te dis, il est au plus haut niveau depuis déjà 4 ans. Il a fait de la Première Ligue. Là, il est au Bayern. Il vient de faire la Ligue des Champions jusqu'en demi.
Tu vois, le match retour de Olise avec le Bayern contre le PSG, je te prends juste ça.
Ouais.
Tu vois, il y a des steps, des machins. Ce match-là, il l'a raté. Entre guillemets, avec son statut.
Il le rate ou il est bien pris?
Oui, d'accord. Enfin, si tu veux, il faut. T'es exigeant avec ce genre de gars parce qu'il est, il est très très fort.
Ouais, je suis d'accord.
Moi, je pense que mentalement, je te rejoins, Kevin, et je vous rejoins sur le fait que, en plus, Olise, il a un truc en plus, justement, mentalement, pour dire que j'ai pas aucun souci sur la pression. C'est juste que, dans ces matchs-là, c'est pas la pression qui lui a fait peur dans le match retour du PSG, comme tu dis, il a été pris et il n'est pas sorti de ce marquage-là. C'est juste ça. C'est juste là où Mbappé, par exemple, avec tous les débats qu'on a, en revanche, lui, il n'aura pas de difficulté à mentalement et techniquement à rentrer là-dedans. Voilà. Bon, après, c'est une équipe qui a une expérience surtout avec des joueurs en club, comme vous l'avez dit, dans des grosses compètes, ce que n'ont pas les équipes que l'on voit jouer là, par exemple, depuis le début de la compète. Hein.
Le Brésil, les gars, on y va demain soir, l'entrée en lice du Brésil.
C'est le premier match qu'on attend, ouais.
Avec son palmarès évidemment exceptionnel. Comment on dit la sixième en portugais?
Sexta.
Ouais. Enfin, t'as dit sexta, pourquoi tu transformes? Il n'y a pas le X.
Non, il n'y a pas de X. Il n'y a pas de X en
portugais. Redis-lui, parce qu'il n'y a pas bien compris.
Sexta.
Sexta.
Il n'y a pas de prononciation X.
Sexta. Oui, il y a le X, mais il n'y a pas la prononciation.
C'est la future vainqueur du Tour de France.
C'est comme Louis-Philippe. Louis-Philippe.
Ah, c'est que ça?
C'est Chasse.
Peut-être.
Paul Seychasse.
On va en parler du Brésil. Avec un ancien joueur de notre championnat. Il est passé par Nancy, Bastia, Marseille, Troyes. Demetrius Ferreira est avec nous en direct de São Paulo. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation. Pour moi, c'est un plaisir de vous parler, de parler un peu avec vous de la sélection.
Merci.
Faut juste dire un truc pour nos auditeurs, c'est qu'aujourd'hui on est vendredi, ouais. Et donc en portugais, vendredi c'est le sixième jour de la semaine, et donc c'est sexta aussi, sexta feira.
Très bien, merci.
C'est le sixième jour, le vendredi, c'est pas le cinquième.
Bon, en tout cas, Demetrius, bravo, comment, parce que je vois que vous avez gardé un niveau de français magnifique là.
Eh ben écoute, j'essaie de pas arrêter de parler, parce que si c'est vrai que quand on pratique pas tous les jours, on perd quelques mots. Déjà, je m'excuse auprès de vous, parce que bon, si manque un mot, vous savez que c'est un manque de pratique, mais bon, ça fait déjà 18 ans que je suis retourné au pays, mais j'essaye de quand même.
Franchement, c'est parfait ton français là.
Bon, merci, c'est gentil.
Ah, vraiment. Hein.
Bon, Demetrius, demain, le Brésil affronte le Maroc. Est-ce que la sexta, c'est possible ou impossible?
Ben, tout est possible dans le football, vous savez, c'est tout est possible. Maintenant, c'est vrai qu'il.
Mais on y croit pas. Tout est possible, mais on n'y croit pas.
Ben, si vous ne croyez pas la France avec la qualité que vous avez, vous imaginez le Brésil comme il est en ce moment.
Le Brésil, on n'y croit pas.
Bon, pas trop, franchement, pas trop. Bon, j'expliquais un peu déjà pourquoi les gens ici au Brésil ne croient pas trop. Je pense que la sélection aujourd'hui, il a perdu beaucoup d'identité avec le public. Pour la plus forte chose, c'est que les sélections, les équipes nationales d'avant, tous les joueurs, pratiquement, ils avaient passé déjà au Brésil, même s'ils jouaient en Europe ou n'importe où. Ils avaient passé dans les grands clubs, ils étaient champions dans les clubs ici au Brésil, donc tout le monde le connaissait. Aujourd'hui, si tu prends 95%, si tu demandes aux gens de dire le nom de tous les joueurs de l'équipe nationale, ils ne savaient pas. Parce que ces joueurs-là sont partis jeunes et ils n'ont pas créé une identité avec le public. Donc le public ne connaissent pas trop.
Ok, alors cet élément est très important. Maintenant, il y a comme ça, de prime abord, un fait historique assez fou, c'est que nous, on a grandi avec l'idée que quand arrivait une Coupe du Monde, si tu cochais un nom, deux noms, trois noms, il y avait toujours le Brésil. Le Brésil, c'était toujours un favori. Et j'ai. Alors, 2014, évidemment, le Brésil, puisqu'en plus, c'était pays organisateur, il y avait une super équipe, on les cochait encore dans les favoris. 2018, en fait, je cherche à savoir à quel moment il y a le point de bascule. À quel moment le Brésil a arrêté d'être aux yeux du monde la première équipe qu'on cite quand on parle d'un favori.
Au moment où le football business a pris le pas sur le vrai football. C'est-à-dire
que. En 2014, on est déjà dedans.
Est-ce que c'est pas la demi-finale contre l'Allemagne? Peut-être aussi, mais.
Tu crois que là, il se passe quelque chose?
Non, mais c'est aussi.
Est-ce que 2018, on a encore beaucoup de Brésil?
Le problème, c'est que avant 2014, il y a encore une génération qui a grandi comme Neymar, qui a grandi au Brésil, qui a joué au Brésil, qui est une star au Brésil. À partir de début des années 2010, le football business prend complètement le pas sur les autres, et les Brésiliens partent à 16 ans ou 17 ans en Europe. Ils n'ont même pas le temps de se former, de se post-former. Et donc aujourd'hui, quand on dit pourquoi il n'y a plus de Brésiliens, des grands joueurs et tout, parce qu'ils sont cramés par le football business.
Kevin, ce que tu décris, c'est exactement la même chose pour l'Argentine. Les Argentins, ça les a pas empêchés d'être champions du monde et de proposer une équipe qui est meilleure, de proposer une équipe qui est meilleure que celle du Brésil.
Oui, mais ils ont
Messi. C'est pour ça que la question que je pose, c'est ce pays a quand même reculé dans la hiérarchie et dans l'impression de puissance qu'il donnait. Et Demetrius, ma question, c'est est-ce que également au pays, est-ce qu'on souffre de ça, de dire mais nous on était le phare footballistique du monde. dès qu'arrivait une compète, on brillait, au minimum, on faisait rêver tout le monde. Et là, on fait beaucoup moins rêver qu'avant.
Oui, bien sûr. Nous, on pense pareil. Tout le Brésil, il pense comme ça. Parce que aussi, il y a une évolution des autres pays. N'importe quel pays où on joue aujourd'hui, il y a des bonnes équipes nationales partout. Donc, il y a une évolution aussi des autres pays, des autres équipes. Mais aussi, je pense qu'on a arrêté dans la formation des jeunes. Pourquoi ? Parce que les clubs ne travaillent pas comme ils travaillent avant. C'est vrai aussi, vous avez raison, quand on parle du football business. Ça aussi, je pense que c'est un cancer dans le football. Mais aussi le travail qu'ils font avec les jeunes. Avant, au Brésil, tu te promenais à chaque 100 mètres, il y avait un terrain de foot, de terre. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de ça. Aujourd'hui, c'est synthétique. Où il y a un terrain, c'est un terrain synthétique. Et le travail qu'ils font les clubs avec les jeunes, ce n'est pas le même qu'ils faisaient avant. Des formations des jeunes, des travaux techniques, des travaux dispositionnés. Aujourd'hui, les entraîneurs des équipes des jeunes, ils ont une responsabilité de gagner des titres, comme si c'était les professionnels. Donc, ils ne font pas le travail qu'il faut pour former les joueurs, pour qu'ils soient en professionnel. Aujourd'hui, si tu regardes le championnat brésilien, ben, si tu dis que ce n'est pas possible, le niveau technique aujourd'hui, c'est pas le Brésil. Oui,
mais parce que en fait aujourd'hui, et c'est pas que au Brésil hein, mais aujourd'hui les formateurs ne sont pas là pour former des joueurs, ils sont là pour vendre des joueurs. Et donc en fait, il faut les former le plus vite possible pour que ce soit clinquant, que ça aille vite, ça court vite, mais le football aussi, de rue, le football tout ça, et puis il y a pas que ça. Hein. Moi j'ai jamais été au Brésil de ma vie, donc vous me dites si je me trompe, mais il y a la croissance économique qui fait qu'il y a moins d'espace pour des terrains de jeu, il y a plus de buildings, il y a plus d'immobilier, et donc il y a moins de terrains sauvages où tu vas jouer au foot. Tout ça joue. Ouais. Aujourd'hui, au Brésil, avant, c'était la plus grosse population de joueurs. Vous savez, c'est quoi maintenant la plus grosse population de joueurs, malgré qu'on soit que 65 millions ? C'est l'île de France et c'est Paris. Parce qu'il y a encore des terrains de foot, parce qu'il y a beaucoup de clubs amateurs. Au Brésil, si t'as de l'argent, on peut te mettre dans un club. Si t'as pas d'argent, c'est fini. C'est très, très compliqué. Et donc, aujourd'hui.
Le Brésil est toujours très bien placé.
C'est le deuxième, avec la région de Sao Paulo. Mais avant, c'était partout au Brésil. Maintenant, c'est que Sao Paulo. Le reste, c'est pour
Alors, Florent, et ensuite, on va rentrer dans les détails de l'équipe pour demain.
Je voulais y aller direct dans les détails de l'équipe et notamment je vais commencer par l'attaque pour savoir si Hendrick a pris le lead puisqu'on l'a beaucoup regardé cette année en France avec son expérience lyonnaise et pour voir comment l'attaque pouvait s'articuler y compris en l'absence de Neymar pour le début de la compète.
Bah oui, je pense que ça va être il va commencer avec Rafinha, Matheus Cunha et Vinicius. Voilà. Mm-hmm. Je pense que c'est les trois qui vont jouer devant. Peut-être Hendrick va rentrer dans le match, mais
donc,
il va pas commencer comme titulaire.
Et au milieu, on irait avec quoi ?
Oui, je pense un 4-3-3. Ouais.
D'accord.
Et qui au milieu de terrain ?
Ouais, je pense qu'un 4-3-3, justement.
Mais avec qui au milieu comme joueur ?
Ah, c'est le temps que ça arrive. Alors, dernier match amical, ils ont joué avec Casemiro, Guimarães et Paqueta.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, ouais, trois, c'est quand même pas mal.
Il y a quand même de la qualité.
Non, mais il y a beaucoup de qualité, mais c'est des joueurs qu'on aime bien. Mais Casemiro est plus sur la fin que le début.
Le problème, c'est les latéraux.
Mais on est plus sur les milieux qu'on avait à une époque. Ouais, c'est quand même une très belle équipe.
C'est quand même des beaux milieux de terrain, mais le souci, c'est que le Brésil a toujours été, on parlait tout à l'heure de l'animation offensive, elle venait aussi beaucoup des latéraux, avec des latéraux de très haut niveau.
Et là, aujourd'hui. Ils ont toujours été très importants dans la culture brésilienne.
Tu vois, Danilo et Alexandro.
T'as Danilo, Alexandro, t'as aussi, je crois qu'il est toujours là.
Normalement,
ça devrait être Wesley et Alexandro les titulaires. Demetrius est là. Quelle est la défense, Demetrius, qui pour toi est la meilleure aujourd'hui dans l'équipe du Brésil ?
Je pense que c'est l'équipe qui va commencer. C'est Danilo, Marquinhos, Gabriel et Alexandro.
Ouais, Danilo.
Je pense que ça va être ceux-là avec Casemiro. Bruno Guimarães et Paqueta, ça va être l'équipe qui va commencer à défendre les terrains. Je pense que ça va être là.
Mais Demetrius, pendant qu'on vous avait un petit peu perdu, là, on parlait des latéraux qui a tout, historiquement, ça a été une grande force pour le Brésil. On pourrait s'amuser à les citer parce que
Cafu,
ça nous fait rêver, mais évidemment,
Branco, Ronaldo
Carlos, Cafu,
Dani Alves.
Les latéraux, c'était absolument fantastique. J'ai l'impression que là, la machine, elle est un peu cassée de ce côté-là.
Ouais, très beaucoup cassé. Hein. On n'a pas aujourd'hui, tu vois, tu prends Danilo, il joue stopper, quoi. Il joue pas latéral droit, mais il va jouer latéral droit. On n'a pas un joueur, ni à gauche, ni à droite, avec les moyens, avec la capacité qu'il y avait les anciens latéraux. Bon, c'est sûr que ça a changé, c'est pas la même époque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au Brésil, on a un manque énorme, géant, des latéraux, même droit et même gauche. C'est difficile de trouver un joueur pour et même après, hein, ce joueur-là, je pense qu'ils vont peut-être.
J'ai dit Marcelo.
C'est la dernière coupe du monde. Et après, pour après, on n'a pas. Hein, franchement, on n'a pas de joueurs pour.
Mais alors, nous, on a suivi.
Il faut qu'un seul latéraux brésilien et. Vous avez fait une liste longue.
On a fait la liste.
Moi, je pense qu'on aurait pu en citer d'autres, mais bon.
Et tu vois, par exemple, il y avait deux latéraux qui étaient très bons à Monaco. C'était Vanderson et Caio Henrique. Malheureusement, les deux, ils se sont fait des graves blessures. Alors, je dis pas qu'ils avaient le niveau des anciens, mais ils jouaient en équipe nationale.
Ils étaient dans l'esprit.
C'était des beaux joueurs. Ils étaient dans cet esprit-là. Avec Caio Henrique, c'était le meilleur pied gauche de Ligue 1 pendant 2-3 saisons. C'était extraordinaire.
Ouais, Wesley, c'est un bon joueur aussi qui joue à l'AS Rome, qui s'est blessé aussi le match amical.
C'est pour ça qu'il ne va pas jouer, parce que moi je pensais que c'est lui qui allait jouer.
Non, il n'est plus en sélection. Hein.
Ça m'avait échappé.
Il est retourné à la maison.
Un mot justement sur l'équipe défensive d'Emetrius. Est-ce que vous pensez d'Ancelotti là-dessus? Parce que bon, toute la planète attend toujours de voir offensivement des choses. C'est pour ça qu'on a commencé par l'attaque. Parce qu'au niveau brésilien, on a toujours envie de voir qui joue devant. Et il y a Rafinha quand même. Et puis il y aura peut-être Neymar dans la compétition. Mais défensivement, comment Ancelotti, enfin, est-ce que vous pensez qu'Ancelotti va être capable de porter l'équilibre dont cette équipe a besoin?
Ben, on espère bien. Moi, il a les capacités pour ça, Maintenant, il faut voir comment les joueurs vont se comporter, en sachant que c'est une Coupe du Monde et ça se joue à très peu de détails, quoi. Il n'y a pas le temps de commettre des erreurs et après, à l'entraînement, on va régler ça. Non, il n'y a pas le temps. Hein.
Et d'autant qu'il y a un match Brésil-Maroc.
Si tu passes la première phase.
Déjà avec un match chaud pour le premier match.
Ouais, ça va être difficile, très difficile, parce que bon, on ne sait pas ce qui va se passer avec la sélection. Franchement, aujourd'hui, moi-même, je n'ai pas une opinion qui va bien jouer, va mal jouer, va gagner, va perdre. Bon, ça, c'est le football. Mais aujourd'hui, on ne sait pas comment il va se comporter la sélection, les joueurs. Par rapport à une équipe comme le Maroc.
C'est pour ça qu'on est pressé d'être demain pour voir ça. Hein.
Florent est là au 32-16, c'est un supporter de l'OM, mais qui suit le Brésil vraisemblablement. Salut Florent.
Bonsoir. Pas forcément le Brésil, le foot en particulier. Petit bonjour à Dimitrius quand même. En tant que Marseillais, on s'en rappelle quand même.
Eh oui, est-ce que tu te souviens de la finale de l'Euro de la Coupe de l'UEFA 2004, Florent?
Mon grand désespoir, oui, je m'en rappelle.
Demetrius était titulaire ce jour-là contre Valence.
Eh oui, avec Anigo qui nous sort Meriem.
Avec Anigo, ouais.
Carton rouge à partir, ça.
Alors, sur le Brésil, toi, tu crois?
Alors, c'est bizarre, mais je crois que c'est la première fois depuis que je regarde le foot que, quand je regarde les favoris des bookmakers, le Brésil, ils sont 8e ou 9e. Et je me dis, avec Carlo Ancelotti, qui fait quand même un peu des miracles, des fois il fait croire à certains joueurs que c'est des phénomènes, s'il met un bloc costaud, je me dis, est-ce qu'il pourrait pas créer la surprise avec quand même, ils ont du talent avec Vinicius Rafinha. Moi je suis étonné que Igor Thiago, avec la saison qu'il fait en Angleterre, soit pas dans la discussion pour commencer. Je sais pas, je me dis nous surprendre dans le sens où faire quelque chose sans être le Brésil. Je me dis pas.
Ah, tu veux dire en jouant différemment? En quelque sorte, en étant un peu plus pragmatique, quoi.
Mais attention, mais moi, Daniel, là, il vient avec Demetrius, on vient d'énumérer les joueurs du Brésil. Mais moi, je vous dis franchement, moi je me suis re-hypé en deux secondes, hein, même si on les connaît tous et tout.
Ah, quand
on
entend les noms, là, alignés.
Moi, je suis désolé, moi, c'est une très, très belle équipe. Hein. Mm. Ah, pour moi, c'est top 5 des favoris, entre guillemets, même si ça resterait une surprise.
Et le numéro 9, est-ce que aujourd'hui,
des joueurs qui marquent des buts quand même.
D'accord, mais le Brésil à la Coupe du Monde, t'avais toujours en général un 9 extraordinaire.
T'avais des Romario, des R9, bien sûr.
Un 10 aussi, un numéro 10.
Voilà, le numéro 10, il est là, mais il jouera que les 20 dernières minutes. Daniel l'adore d'ailleurs. On est ma junior.
On va voir ça demain soir. Demetrius, merci. Vous faites quoi aujourd'hui? Vous êtes toujours dans le foot?
Oui, je travaille avec un club formateur ici au Brésil. J'allais vous parler, ce que je discutais là avant. Les clubs, ils viennent chercher les joueurs des mois de 12 ans, mois 13 ans, mois 14 ans aujourd'hui, pour le prendre. Avant, ça n'arrivait pas. Et c'est pour ça aussi que les clubs, ils ont pas, ils n'arrivent pas à former les joueurs comme ils les formaient avant. Les clubs de l'extérieur, ils viennent chercher le joueur à chaque fois plus jeune.
Mais malgré tout, les clubs brésiliens. Malgré tout, les clubs brésiliens, Dimitrius, ils ont des moyens et c'est les meilleurs aujourd'hui en Amérique du Sud, malgré tout, les clubs brésiliens. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des joueurs qui sont là.
Oui, il y a des joueurs, il y a de bons joueurs. Les Brésiliens, ils auront toujours une qualité différente des autres. Les joueurs brésiliens, ils sont toujours portés d'une technique différente, ça c'est sûr. Maintenant, il faut les travailler comme il faut quand ils sont jeunes pour pouvoir le former de la manière correcte pour qu'ils puissent être des bons joueurs. C'est tout.
Merci Dimitrius, merci, c'était sympa.
Merci beaucoup.
On reste en contact
Bon, merci, au plaisir.
Ça marche, bonne soirée, à bientôt.
Si on se reparle, ça veut dire que ça se passe bien pour le Brésil.
Ouais.
Voilà. j'espère bien.
Merci, bonne soirée. Man. Attention,
merci,
quiz.
Bonne soirée à tous.
Qui me donne tous les joueurs qui ont démarré le match contre Valence en 2004, finale de la Coupe de l'UEFA. J'y étais.
Barthez.
Avec Lionel Dion. Barthez dans les buts, exact.
Drogba, évidemment.
Drogba, évidemment. Laurent Blanc.
J'avais de la vie. Ouais, oh là là.
Défense à 5.
Ah, 2004.
Défense à 5. Défense 2004. À 5. Il y en a un qui est évident, il est entraîneur aujourd'hui.
Habib Bey
était là. Ah, je vous les donne, allez.
Ferreira.
Meïté aussi.
Meïté, Mdani titulaire. Dos Santos latéral gauche. Il y avait Flamini au milieu avec Sylvain Ndiaye, Meriam Drogba et Steve Marley.
Mais il y avait surtout Gavanon qui a remplacé
Barthez.
Enfin, Barthez a été expulsé, il a remplacé un joueur et il a pris cher. Ouais. Enfin, c'était très dur de
remplacer. Avec Colina, entraîneur, c'était Colina, la fameuse double peine. Exactement.
Colina,
pas entraîneur, arbitre.
Arbitre.
J'ai dit entraîneur. Arbitre, pardon. Colina qui aujourd'hui est le patron des entraîneurs de la FIFA, si je dis pas de bêtises.
Ou encore
des arbitres. Des arbitres.
J'ai dit quoi?
T'as dit des entraîneurs.
Je suis pas. Pardon. Bon, j'ai bugué.
Jet lag. Sorry.
Je vais vérifier si c'est lui toujours.
Ça m'étonne. C'est fini.
En tout cas, le patron des arbitres de la FIFA, on l'a pas entendu sur l'arbitre somalien. Il a pas. Je sais pas. Ou alors ça m'a échappé. Dans un instant, le Maroc au programme.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
On est là jusqu'à 2h du matin en heure française. Il est minuit 24 en France, minuit 25 même maintenant. Il est ici à New York, 18h25, Daniel Riello, Florent Gautreau et Kevin Diaz sont là. On a parlé du Brésil, maintenant on va parler de l'adversaire du Brésil. L'une des meilleures équipes africaines, peut-être la meilleure pour certains. Enfin, on va dire que ça se joue à touche-touche avec le Sénégal, le Maroc. On va en parler avec Younes Belhanda qui fait partie de notre Dream Team, évidemment, et qu'on est ravis de retrouver. Salut Younes.
Bonsoir à tous. Salut, ça va ?
Salut Younes.
Ça va.
Salut à tous.
Bon. Brésil-Maroc, premier gros choc de la Coupe du Monde. J'allais te dire le champion d'Afrique, mais bon, on considérait qu'il y en a deux. Alors on va dire qu'il y en a deux, parce que finalement, pour l'instant, on ne sait pas. Non, mais bon, voilà. Est-ce que toi, tu considères aujourd'hui que le Brésil est le méga favori de ce match, Younes, ou tu te dis, vu l'état du Brésil et vu ce dont le Maroc est capable, il n'y a pas vraiment de favori pour ce match. Quel est ton point de vue ?
Si tu regardes au niveau historique, bien sûr que le Brésil il est favori. Quand tu regardes l'historique du Brésil, je vais pas te dire, je sais même plus combien ils ont de Coupe du Monde.
5.
Et combien de. Donc voilà. Donc le favori c'est le Brésil. Mais au vu des performances du Maroc sur ces dernières années, ils ont leur mot à dire, surtout sur un match de demain. C'est un match c'est pas un match à élimination directe, donc c'est un match de poule, premier match. Donc voilà, je pense que le Maroc a de grandes chances de gagner ce match parce qu'ils ont de très bons joueurs, que ce soit technique, tactiquement.
Ce serait quand même une sacrée surprise, hein. Si demain le Maroc gagne.
Je ne sais pas ce que tu appelles sacrée surprise. Je sais. En fait, il faut. Où est-ce qu'on met le curseur? Je ne sais pas. Toujours est-il que l'histoire du foot elle évolue, bien sûr, et là où ne serait-ce qu'en 98. C'est déjà il y a longtemps, un peu plus de 25 ans maintenant.
Il y a un Brésil-Maroc.
On se posait pas vraiment la question.
Le Brésil était largement favori et le Maroc qui allait à la Coupe du Monde, le fait juste d'aller à la Coupe du Monde, c'était déjà quelque chose de très important pour une sélection comme celle du Maroc. Et que tu perdes contre le Brésil, je pense que peu de gens avaient beaucoup d'espoir et peu de gens étaient finalement très déçus à la fin. Il se trouve que le chemin parcouru depuis 20-25 ans maintenant par beaucoup de sélections en Afrique et notamment par le Maroc, parce que les installations, parce que la qualité des joueurs, les joueurs qui vont jouer maintenant dans les grands clubs, on n'est plus du tout là-dedans. Et on vient de faire il y a 5 minutes le débat sur la régression du Brésil au niveau mondial. Et ben en parallèle, il se trouve que le Maroc, lui, a beaucoup progressé à peu près à tous les niveaux, je viens d'en évoquer certains, et que... Oui, ok, je veux bien qu'on s'amuse à dire que le Brésil est favori de ce match. Ok, pourquoi pas.
Je pense pas. Mais... Tu vois les courbes se croiser, toi?
En tout cas, il n'y aurait rien de choquant au vu de ce qui s'est passé dans l'histoire récente à ce que les courbes se croisent et que le Maroc batte le Brésil. Moi, je ne tombe pas de la chaise demain si le Maroc bat le Brésil.
Maroc demi-finaliste
de la dernière Coupe du Monde, ou finaliste de la dernière CAN, si tu veux dire que le champion, c'est le Sénégal. Quand tu vois
le parcours récent du Maroc sur ce qu'il a fait ces dernières années, le Maroc, je dirais qu'il est favori par rapport au Brésil, avec ce qu'a fait le Brésil ces dernières années. Tu dis demain le match Maroc-Brésil, tu mets une pièce sur le Maroc.
Attends, je pose une question à Younes. Faisons un petit jeu. Ouais. Younes, aujourd'hui, je te demande quel Marocain tu mettrais titulaire dans l'équipe du Brésil. Ça veut dire que tu remplaces le même gars côté brésilien.
Il y a que Hakimi. Ashraf Hakimi, Mazraoui.
Les deux latéraux.
Ashraf, ouais. Mazraoui, Diaz.
Brahim Diaz.
S'il jouerait en 10, Diaz, il fait le 10 traditionnel brésilien. C'est ça.
Mais après, c'est
donc
vrai.
Donc en 10,
après,
je mettrais Diaz.
Il n'y en a que 3. Moi, je vais quand même.
Ça fait 3 sur 11. C'est pas beaucoup.
Attends, je vous pose une question.
Attends, excuse-moi, puisqu'on parlait des favoris. Après, pour moi, le Brésil reste un chouille favori.
D'accord.
Parce que Vinicius et parce que Rafinha, ces joueurs, on va dire, capables de faire un éclair, le Maroc l'a pas.
Casemiro en fin de course, c'est toujours mieux que Boadi ou El Aïnaoui. Mais les gars, à un moment, je suis d'accord avec vous sur le principe, je suis pas en désaccord.
Par contre, il y a des bookmakers, ok? Et on a un partenaire, par exemple, qui est Winamax. À votre avis, c'est quoi la cote de demain?
C'est 6 pour le Maroc.
Donc en fait, ils sont ultra pas favoris.
Les gars, c'est des professionnels, je te dis, les gars, c'est des professionnels, si le Maroc gagne.
Néanmois, pour moi, le Brésil reste favori.
Le Brésil, c'est 1,60 et le Maroc, c'est 5,10.
Moi, Kevin, tu m'excuses, je vais pas faire l'analyse du Brésil-Maroc.
Non, tu fais pas d'analyse, mais il y a un moment, c'est des professionnels.
Moi, je vais te dire un truc, puisque tu dis Boadi. Moi, je te dis Boadi par rapport à Casemiro. Je te dis juste comment vous venez de Casemiro, c'est forcément au-dessus en fin de cycle comme ça.
Bien sûr, les gars.
Mais non, je suis pas d'accord. Il y a match. Mais moi, je pense que là où on dit, je dis que quand tu lances le truc en disant sacrée surprise, je dis c'est presque manquer de respect au Maroc.
Pas sacrée surprise.
Non, mais attends. Je veux juste finir ce que j'ai à dire. Je te dis juste que dans les joueurs, puisque tu disais là tout à l'heure qu'on parlait de joueurs, c'est une chose. Peut-être qu'il y en a que 4-5 que tu mettras à la place. Oui, t'as raison, Daniel. Offensivement, les Rafinha, les Vinicius, c'est impressionnant. Mais dans l'histoire collective de ce qu'ils ont construit récemment, moi je te dis que là tu arrives demain, s'il y a match nul ou s'il y a victoire du Maroc comme disait Younes, moi je serais pas du tout étonné. Sauf qu'on oublie un élément important, faut pas oublier collectivement, bien sûr
le Brésil individuellement ils ont des joueurs de classe mondiale, que ce soit Rafinha, que ce soit Vinicius, tu as au milieu Casemiro d'expérience, tu as Paqueta, tu as en défense centrale Marquinhos, Gabriel, tu as du monde individuellement bien sûr. Mais collectivement, sur ce qu'ils ont montré le Brésil ces dernières années, c'est pas la force collective du Maroc de ces dernières années.
Alors attention, demain, moi maintenant,
si collectivement demain le Maroc gagne le match, ce sera pas une surprise pour moi.
Alors maintenant, c'est débat et question en même temps. Qu'est-ce que va faire le Maroc contre le Brésil? Ça, pour moi, c'est une question importante parce que j'ai trouvé qu'ils avaient. Alors, si on reste au plan continental. Le Maroc est devenu une grande puissance de son continent et une équipe qui est totalement protagoniste, qui veut faire le jeu. C'est ce qu'a construit Walid Regragui.
Avec un nouveau sélectionneur aussi, c'est inconnu. Hein.
Mais ce qu'a construit Regragui, c'est que le Maroc est une équipe qui maintenant, en tout cas sur le continent, doit faire le jeu, doit dominer son adversaire et jouer de façon offensive.
Ce qui ne faisait pas en 2022.
Attention, c'est à ça que je voulais en venir. Voilà. Au niveau mondial, il va falloir que le Maroc se trouve une identité. En 2022, il ne faut pas qu'on soit totalement aveuglé par ce qui s'était passé contre l'Espagne, collectivement, ils étaient en dessous et ils ont opté pour une stratégie ultra-défensive qui les a emmenés à une qualification historique. Contre la France, ils ont encore joué de façon assez défensive. Dans les matchs de poule, ils avaient été plus ambitieux. Néanmoins, au niveau mondial, le Maroc, on ne sait pas encore les situer dans leurs ambitions, dans ce qu'ils veulent faire sur le terrain. Et là, j'attends une réponse. J'attends une réponse de l'entraîneur. Il joue le Brésil, une équipe qui va pas se poser de questions. Le Brésil, ils vont vouloir imposer leur rythme, ils vont vouloir dominer la rencontre, prendre le ballon. Qu'est-ce que va faire le Maroc? Pour moi, elle est là la grande question. Avant de savoir qui est favori, est-ce que le Maroc a ses chances? Évidemment, le Maroc a assez de qualité, assez aujourd'hui de background pour se dire « moi, je veux exister dans le match et tout ». Mais de quelle façon? Là, moi, pour moi, c'est une question très importante.
Réponse de Younes. Moi, je pense que l'entraîneur est assez ambitieux dans le jeu parce qu'il sait qu'il a les joueurs de qualité, que ce soit au milieu de terrain, les deux latéraux que vous connaissez très bien, Hakimi, Mazraoui, qui savent jouer au ballon, qui savent monter, qui savent dédoubler, qui savent jouer en mode hybride. Ils ont les joueurs au milieu qui ont beaucoup de coffres, qui courent beaucoup, qui courent énormément, donc qui pourront faire les allers-retours.
Et devant, alors, Younes, j'ai un peu peur
juste un truc, Younes. Moi, j'entends encore une fois, mais demain, le Maroc, ils ont quand même de grandes chances et c'est très bien. Il y a pas de souci, mais c'est de jouer en bloc bas face au Brésil. Ils vont jouer en bloc médian.
C'est ça que je veux savoir. Moi, j'en sais rien. Mais je ne sais pas. Je veux savoir.
On verra. Mais pour moi,
je pense pas. Bien sûr, ce coach a l'ambition de jouer. Donc, je pense pas qu'il va jouer en bloc bas.
Ce qu'a fait le Maroc, c'est magnifique. L'Académie Mohamed VI, la formation des joueurs, le développement depuis 15-20 ans qui est extraordinaire.
C'est le moment d'avancer.
Mais aujourd'hui, le Brésil, en 2018, ils sont éliminés sur un miracle contre la Croatie, parce que les Croates, ils sont cramés dans le match.
En
2022, ils sont dans la dernière compétition. Ils sont cramés et ils doivent passer tous les jours le Brésil, alors que les autres, ils leur mettent un bus monstrueux et qu'ils se passent au pénalty. Faut pas oublier. Mais le Brésil, s'il va en demi-finale,
ne change pas l'idée que
le Brésil demain est favori.
Évacuons le débat du favori. Moi, ce que j'attends du Maroc maintenant, c'est au vu de tout ce qui se passe ces dernières années, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Quel visage vous allez nous montrer? Younes était en train d'expliquer ça. J'aimerais bien qu'il termine là-dessus.
Ah oui, non, mais le nouvel entraîneur, moi, je pense qu'il va vouloir faire le jeu parce qu'il va pas déroger à sa caractéristique.
Ça, j'adore. J'aimerais bien voir ça.
Ben, je pense qu'il va le faire. Il a les joueurs pour. Comme je t'ai dit, le milieu des terrains, ils ont un coffre. C'est des marathoniens. Donc, ils peuvent jouer, se permettre de perdre des ballons plus haut et revenir plus bas, pas en jouant en bloc bas ou bloc médian, mais de pouvoir faire le jeu. Ils ont des joueurs.
Mais comment ils vont gérer les transitions, Younes?
Après, il y a un truc.
Parce que Younes, ça va vite au Brésil.
Pour rebondir sur Flo
et Armand, ça va très vite. Si tu me mets sur la longueur Achraf, Hakimi et Vinicius, je mets une pièce sur Hakimi aussi. Hein. Rafinha. Et de l'autre côté, Mazraoui aussi, il va très très vite.
Sur ce débat, justement, de qui sera protagoniste ou pas. Moi, je reviens sur ce que dit Daniel. La façon dont ils ont géré la Coupe du Monde 2022, effectivement, quelque part, c'est presque simple. Tu es un peu dans la position de l'outsider, tu assumes de jouer comme ça et tu vas créer la surprise.
Mais maintenant, ça a changé, le Maroc a changé.
Ça a changé, mais je pense que ce serait une erreur, à mon avis, si, même s'il a envie de le faire, et ça dépend des matchs, si Wabi, demain, le sélectionneur, immédiatement dit non, on va être protagoniste, on va prendre le jeu. T'as le Brésil.
Moi, je lui en voudrais pas.
Non, mais je dis pas que, bien sûr, sur le principe, je suis aussi pour ce genre d'entraîneur. Je dis juste que si t'as la chance, entre guillemets, d'avoir un Brésil qui, comme tu l'as dit, va de toute façon pas se poser de questions, tu as aussi la chance et l'intérêt et l'expérience de ce que tu as justement construit dans cette grande compète de 2022 pour dire on est capable de leur faire mal aussi en transition et s'adapter. Donc je dis juste que je pense juste à ça. Quand tu récupères une sélection qui a été performante, et c'est le cas de ce sélectionneur, autant se servir des acquis et de ce qui a marché quand même, notamment quand en face de toi t'as une équipe protagoniste. Donc moi je dis pas que ce sélectionneur aura pas d'idée de jeu.
Oui, sauf
et
que depuis 2022, tout ce qui a été travaillé par ce groupe, c'est de devenir une équipe qui fait le jeu.
C'est vrai.
Ça a toujours été l'intention des Marocains maintenant, c'est de plus jouer en petite équipe, c'est de jouer en équipe ambitieuse. Mais Younes est en train de parler des attaquants parce que pour moi on en parle trop peu. Parce que l'équipe c'est un peu comme si elle s'arrêtait à Brahim Diaz. Mais j'aimerais qu'on parle de ceux qui sont devant lui.
Bien sûr, il y a Saïbari qui peut jouer en neuf. Il y a El Kabi qui peut jouer aussi en neuf. Mais je pense qu'il a opté plus pour le choix Saïbari, qui est plus technique, un peu plus robuste devant. Et sur le côté gauche, moi je pense que demain, il peut mettre El Khanous à gauche.
Oui, parce que Zalzouli est forfait, on le rappelle.
Zalzouli est forfait. Il y a Talbi qui peut jouer côté gauche, mais moi je pense plus qu'un Khanous demain pourrait jouer. Il s'est rentré à l'intérieur, il a un gros volume de jeu et il est bon balle au pied, il s'est percuté, donc je le verrai bien moi sur le côté gauche.
Alors il y a aussi un truc sur la défense centrale, parce que donc il y a Diop qui est un nouveau international marocain, ouais. Qui a été naturalisé il y a peu là et qui fait sa première grande compète, ouais. Et Aguerd le pauvre est forfait lui aussi.
Ouais, forfait.
Donc là on va avoir forcément une paire un peu nouvelle qui a pas beaucoup joué ensemble.
Ça c'est une interrogation. Aguerd était important en sélection pour son jeu de tête, que ce soit défensif offensif, c'était un joueur très important.
Même dans le groupe, hein. Daniel, même dans le groupe.
Bien sûr. Ça,
il a de la bouteille, donc voilà, c'est l'ancienne génération, la nouvelle génération. Il était un peu entre les deux, et c'est surtout un gars super sympathique qui est très bien élevé et c'est vraiment une très grosse perte pour le Maroc. Mais je pense qu'il a été honnête avec lui-même, avec le groupe. Et je pense qu'il savait qu'il n'était pas physiquement en forme pour commencer ce début de tournoi. Et donc le coach, je pense lui-même, ils ont pris cette décision de le mettre à l'écart. Mais après, Diop a montré sur les débuts avec le Maroc qu'il est costaud, qui reste un très bon joueur de foot. Hein. On l'a connu en France. Donc voilà, moi je suis assez confiant. Il y a Shadi aussi qui est à côté de lui, qui joue en Angleterre. Donc voilà, c'est assez costaud.
Oui, Shadi, Crystal Palace. Donc, normalement, Shadi, ouais. Logiquement, il devrait jouer demain avec Diop, tu penses?
Je pense que la paire demain sera Diop, Shadi. Je pense que ça va être ça.
J'espère que personne va nous dire qu'il fallait prendre El Yamik. Parce que
lui. Oh, Yamik, avec.
Avec la canne et tout, le pauvre, il s'en est pris plein la tronche.
Ça reste un super joueur.
Et Younes, merci beaucoup, c'était très sympa de t'avoir.
Avec plaisir.
Salut,
Younes,
écoute, on reparle du Maroc régulièrement et rendez-vous demain d'ailleurs pour en reparler ensemble. Salut Younes, bonne nuit. Bonne soirée.
Bonne soirée à tous.
Salut Younes. Ciao.
Salut Younes.
Écoutez Achraf Hakimi, tout de suite, il parle du Brésil.
Je pense que on sait, comme je dis déjà, que l'adversaire qu'on va jouer demain, on connaît la nation du Brésil, la qualité qu'elle a, les joueurs qu'ils sont. Mais aussi, nous, on a de la qualité. Et ils s'appellent, en Afrique, ils s'appellent nous les Brésiliens africains. Ce que aussi, on est des joueurs de qualité avec notre force. Et je pense qu'on est prêt pour faire quelque chose de grand avec la confiance, avec tout le soutien de tous les Marocains. Et je pense qu'on va être bien performant pour cette Coupe du Monde et bien commencer dès le match de demain.
Voilà pour Achraf Hakimi. Alors, concernant Achraf Hakimi, il y a une question qui n'a rien à voir avec le football qui va se poser sans doute. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité liée au Ghana, mais Thomas Partey n'a pas pu entrer au Canada. Thomas Partey qui est sous le coup d'une enquête pour des violences sexuelles et qui donc a été interdit de territoire canadien, vraisemblablement, parce qu'il n'y a pas d'officialisation des autorités canadiennes, mais vraisemblablement pour cette raison. Donc il ne pourra pas disputer le match du Ghana dans la nuit de mercredi à jeudi face au Panama. Il est accusé de plusieurs viols et d'agressions sexuelles. Donc que va-t-il se passer avec Achraf Hakimi, qui a aussi une affaire en cours?
Je sais pas, moi, quand c'est les États-Unis, tout le monde est vent debout. Donc, qu'est-ce qu'on dit des progressistes canadiens?
Puisqu'en fait,
ils ont le droit de le faire ou ils n'ont pas le droit de le faire? Chacun est libre de gérer son pays comme il veut ou on verra, encore donner des leçons là?
Pour la phase de poule, les Canadiens, enfin, oui,
ce serait pour après.
Les Marocains jouent aux États-Unis, mais si jamais il y a un match au Canada.
Non, parce que pour en revenir à ce pauvre arbitre somalien, moi, évidemment, vu de mon balcon à moi, je trouve ça ouf. Mais vu du balcon américain, personne, pas un citoyen, pas un membre de parti politique ou un média.
On n'a pas interrogé tous les citoyens américains.
Non, dans les médias, tu aurais trouvé des répercussions. Non, que ce soit dans un média plus à gauche,
on a dû en parler aux États-Unis quand même.
Ça n'a choqué personne.
J'ai vu
énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont, d'un point de vue légal et règlement de la loi américaine, ça n'est absolument pas discutable. Ça n'est pas discutable.
Là, on n'est pas sur la loi.
C'est comme au football, il y a la lettre et l'esprit en fait.
Bah oui, il y a pas d'esprit dans les règles de l'immigration américaine. Il y a aucun esprit.
Il pourrait y avoir un esprit pour accueillir le monde.
Mais
voilà. Et faire du meilleur arbitre africain somalien une sorte de symbole et de dire on considère nous
tu considères de ton balcon.
Bah oui, de mon balcon.
De ton balcon français parisien. Mais je suis désolé, laisse-les gérer comme ils veulent gérer, exactement comme les Qatariens ont géré comme ils voulaient.
Non mais
et vu
des autres pays, je te signale que la France fait beaucoup d'erreurs. Nous, regarde,
mais chacun peut juger. Mais c'est pas parce que tu juges que c'est pas la bonne solution qu'ils ne peuvent pas la faire.
Mais
t'as quand même le droit de penser qu'un pays pourrait faire autrement.
Je te dis que je pense la même chose que toi. Toujours est-il que le jugement sur ce que fait un pays dans son pays, je pense que c'est un peu inutile et déplacé.
Oui, non, mais ça, d'accord.
Et je te répète que de mon balcon, j'aurais fait comme dit Gilbert. Sauf que mon balcon, on s'en fout.
Et puis l'autre problème de cette histoire, c'est comment la FIFA s'est couchée lamentablement en disant non, nous, on n'y est pour rien.
Ça, bien sûr.
Voilà pour le Maroc, on attend ce match demain, on va se régaler.
Et qu'au passage, c'est
entre le Brésil et le Maroc.
C'est l'UEFA qui a trouvé une compensation.
Enfin, Nasser Al-Khelaïfi, tu veux dire.
Oui, mais en l'occurrence.
Il vient m'arbitrer.
Donc on a un jeu en réponse géopolitique.
Qui lui a trouvé l'arbitrage de la finale de Super Cup.
Voilà. Mais bon, on a soufflé l'idée.
Énorme orage sur New York. Vous qui nous écoutez en France, vous en foutez royalement. Vous avez raison. Mais il y a un énorme orage sur New York.
Ok, très bien.
Ce qui explique qu'on n'est plus la skyline en vue écrans, sur YouTube.
Mais quand on voulait aller voir le match des États-Unis, peut-être en terrasse ou en rooftop, ce sera peut-être pas aujourd'hui.
Non, mais la vie de Kevin Diaz, elle est incroyable.
Faut être prévoyant, il faut penser, il faut anticiper. Quand t'es directeur sportif, c'est que ça.
Quand on regarde les matchs, Kevin, il faut que les gens sachent. Vous savez qu'il y en a un bureau, on prend des notes, on n'est pas forcément.
Vous savez qu'il y a un nouveau couple dans l'équipe de l'After. Nouveau couple en vogue, c'est Diaz-Chano, ça. Diaz-Chano, il y a une bromance, ça va marcher.
Central droit, arrière gauche.
Ça va marcher très très fort.
Les Américains.
Très très fort. Ouais, les deux Américains.
The American Dream.
D'ailleurs, Walid le vit très mal parce qu'ils se sont un peu trahis par Kevin, son compagnon de Génération After.
Ouais, mais donc, Walid n'est pas vraiment américain.
Walid s'est fait plaquer. Non, mais franchement, ça fait mal.
Ouais, Walid, c'est parce qu'il parle pas suffisamment anglais avec Kevin.
Walid, il reste toute la journée dans sa chambre entre stream et il regarde tous les matchs de la Coupe
du
Monde.
Walid, les États-Unis, il a pas encore beaucoup vu. Hein. Il sait pas encore.
Bon, est-ce qu'on peut tirer des leçons tactiques d'une Coupe du Monde? On fait une pause et on en parle dans quelques instants.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 45 en France. Il est 18h45 ici aux États-Unis. Daniel Riolo, Florent Gautreau, Kevin Diaz sont là dans le studio américain de l'After, les nuits de l'After. Jusque très tard, encore une fois, ce soir jusqu'à 5h, tout à l'heure, à 2h du matin, l'équipe nationale américaine entrera en compétition face au Paraguay. Sans Enciso, vous le savez, blessé. Alors Enciso d'ailleurs pourrait être là au deuxième match. On avait envisagé au départ un forfait général pour la Coupe du Monde, mais vraisemblablement, il pourrait revenir en cours de compétition. On lui souhaite, évidemment, aux joueurs strasbourgeois. Il y a beaucoup de strasbourgeois à la Coupe du Monde, d'ailleurs.
On te le souhaite.
Hein, il y a deux Marocains.
J'ai hâte de le revoir dans cette compétition avec le Paraguay.
Deux Belges, même. Un Paraguayen, bref. Un Ivoirien, Galadoué, bien sûr. Lors des différentes éditions de la Ligue des Champions, on parle souvent tactique, on dit voilà les grandes tendances, les coachs qui font un peu la différence, qui ancrent des nouveautés dans le football. Est-ce que ça arrive aussi en Coupe du Monde, ça? Est-ce qu'on a un souvenir tactiquement de grandes innovations révélées lors de Coupe du Monde récentes?
Non, je ne crois pas. Je pense que la Coupe du Monde révèle souvent des individualités, des talents, des gars qui vont mettre 6 buts sur une compète et qui les mettront plus après. Ça, on a 1000 histoires de ce type-là. On a des sélections qui vont être surprises, qui vont briller, qui vont nous épater, dont on va garder un fort souvenir. Je sais pas, comme le Brésil 82 et qui pourtant n'est pas allé au bout, ou le même 4 ans plus tard qui n'est pas non plus allé au bout. Mais le foot de Coupe du Monde, c'est plus un foot d'émotion. De gens qui sont derrière leur pays, de matchs qui peuvent se terminer au péno, de matchs couperet, et donc qui se jouent avec une grosse tension, une grosse pression, mais on n'a pas de grands événements tactiques dans une Coupe du Monde. On a, quand une équipe pratique un football qui a l'air d'avoir été élaboré, si on pense à l'Espagne de 2010 notamment, on est plus dans un football qui en fait reproduit ce qu'un club fort dans un pays fait. parce que c'est le club dominant et qu'une grande majorité des joueurs de l'effectif appartiennent à ce club-là et qu'il a cette identité. C'est le Barça et son influence sur l'Espagne. C'est l'Italie avec 5 ou 6 mecs de la Juve et donc une empreinte et un jeu qui va ressembler à ce que pratiquait le club. C'est plus des choses comme ça qu'on va avoir, des aventures humaines, mais on va pas avoir d'évolution tactique. Je me souviens même en 94 de l'Italie qui était pourtant entraîné par Sacchi. On a absolument pas vu une seule seconde ses principes de jeu à lui et le football que lui faisait pratiquer quand il était à la tête d'un club. C'est donc un football d'aventure humaine, un football d'émotion, mais pas tellement un football tactique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que malgré tout on verra gagner une équipe qui, comme on le dit beaucoup en ce moment, est capable de presser, est capable de jouer à haute intensité, est capable de d'évoluer très haut sur le terrain, ou est-ce qu'on va avoir plutôt le contraire, une équipe qui va jouer bas et qui va contrer? Ça, c'est le mystère effectivement après du vainqueur ou des équipes qui vont loin et des surprises qu'on va découvrir tout au long de la compétition. Mais dire une équipe elle joue remarquablement bien et forcément elle va gagner, ça j'y crois pas à ça.
Non, en fait, je pense que ça existait, mais ça n'existe plus. C'est-à-dire que je pense, et c'est tout l'intérêt du football de club qui est devenu plus puissant que le football de sélection. C'est-à-dire que si tu remontes au football total, tu sais, des Pays-Bas, tu sais, à la Coupe du Monde 74.
C'était l'Ajax.
Ouais, c'était l'Ajax. Mais si tu veux, c'est vrai qu'aux yeux du monde, si tu veux, ça
oui, c'était l'Ajax important. Parce que t'avais même le même entraîneur,
et,
c'est dire.
Et après, avant 50, même le Brésil.
Ce qui vaut aussi pour l'URSS d'ailleurs, ouais. Avec Lobanovski,
Dynamitis. Oui, parce que là, non seulement tu prenais une ossature, mais en plus, parfois, tu prenais l'entraîneur.
Mais le Brésil, en 58 ou même, et je vais te dire, la dernière fois où il y a peut-être eu quelque chose qui a ressemblé à, et c'était le début du foot hybride en fait aujourd'hui, c'est-à-dire quelque part un foot où tu changes ta tactique, tu mets du solide derrière, tu t'es prêt après à faire évoluer ton schéma tactique en fonction de l'adversaire, c'est 86 peut-être avec la défense à 3 et de l'Argentine, et que voilà, et on a vu 2-3 choses comme ça, mais depuis 86 je suis assez d'accord, depuis 90 quoi, disons, de la Coupe du Monde, à partir de là je dirais qu'il y a surtout en fait même quelque part des principes défensifs, c'est-à-dire de dire on gagne une compète en ayant une bonne défense. Et après, tu
94,
fais briller.
J'ai le souvenir de la Colombie, de Maturana, qu'on nous vendait comme une équipe, tu sais, le fameux toqué.
C'est bon, c'est bien. Ils sortent au terme d'un match.
Je parle plutôt pour aller au bout.
Indécis et excellent.
Je parle pour aller au bout. Pour aller au bout et donc de ce qui reste quelque part. Effectivement, tu ne restes pas scotché, mais tu restes dans l'idée que tu peux, dès 86 d'ailleurs avec Maradona, mais avec une solidité qui sera incarnée en équipe de France également par la défense et le milieu français.
Moi, je vois une exception.
Et derrière, effectivement, tu n'as pas de révolution tactique. Ouais. Mais en revanche, tu sais que si tu as, tu vois, l'idée de Deschamps, c'est pour ça que je dis qu'il se met dans un risque en ayant ces 4 offensifs. Ça a été quand même de se dire, soyons solides, laissons les solistes nous épater, et puis on va essayer de gagner. Mais
je vois une exception à ça, où réellement un sélectionneur a travaillé sur la durée en se disant, on aura une identité en sélection avec des mecs qui venaient pas forcément du même club. C'est l'Allemagne de Joachim Löw. Lui, il a voulu, même quand il est simplement adjoint en 2006 de Klinsmann, installer des principes de jeu, et le gars qui venait en sélection, exactement comme dans un club, les appliquait. Et la période, elle est longue, hein, la période de Joachim Löw. Il a commencé adjoint, ça joue encore bien à chaque fois, hein, ça joue bien, ça gagne pas, mais ça joue très bien avec la même identité tactique, technique en 2010, en 2012. Et ils finissent l'aboutissement, c'est ils sont champions du monde en 2014. C'est la seule exception de coach qui s'est dit sur la durée. Ouais, mais je vais installer une identité, mais sinon c'est du pragmatisme
et
c'est du.
C'est tout un football qui s'est réinventé aussi avec l'Allemagne.
Bien sûr, absolument.
Le sélectionneur n'a été que la fin la cerise sur le gâteau, où il a fait partie du gâteau.
Mais il y a eu un long travail et la volonté de dire aux gars, vous venez ici, on va jouer comme ça.
Tu vois, par exemple, moi je reproche un petit peu à Didier Deschamps de ne pas s'être inclus aussi dans la DTN et dans le fait.
Mais parce que lui, son ADN était autre, et lui, pour le coup, il a fait son style de jeu.
Lui, il a fait.
Il a mis un style en place.
Bien sûr, il a mis un style en place.
C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il veut le changer sur cette compète.
Mais aujourd'hui, il y a quand même, et on en parle beaucoup, une uniformisation des pratiques dans le monde entier.
En club, en sélection, je ne sais pas.
Mais si, regarde, on parlait du Maroc tout à l'heure. Aujourd'hui, l'académie qu'ils ont, la façon de travailler, regarde la Norvège. La Norvège, aujourd'hui, ils produisent des joueurs pour un tout petit pays qui a des îlots partout. Et pareil, comme le Canada, ils sont moins 20.
On est que avec des sélections qui veulent courir.
Il y a une professionnalisation du foot mondial, que ce soit à tous les niveaux. Et bien sûr, au niveau des sélections, aujourd'hui, même le Qatar travaille comme les grands pays.
On a des sélections. saison où on va courir.
Bien sûr.
On va faire des kilomètres, on va bosser sur l'intensité, les sprints à haute intensité.
Tu sais ce qui
et si on ajoute les joueurs techniques.
Tu sais ce qui a aussi énormément développé le football mondial, c'est Internet. Parce qu'aujourd'hui, tous les entraîneurs sont capables d'aller chercher des séances partout, de faire de la vidéo, de travailler sur les statistiques, de travailler avec les GPS. Et donc, avec cette uniformisation, comme je disais, des pratiques, des formations d'entraîneurs, des formations de joueurs, et ben, c'est ce que disait tout à l'heure Dimitrius, que ce soit en Amérique du Sud avec des pays comme l'Équateur, avec des pays comme la Colombie, qui travaillent beaucoup mieux avec beaucoup plus de moyens, et en Europe c'est pareil, et ben aujourd'hui t'as plus de petites nations, t'as toujours des très petites nations, mais c'est sur la population, sur les bassins de population, mais aujourd'hui le Portugal travaille aussi bien que la France avec 11 millions de personnes et avec une économie qui est bien moindre.
Le truc important, c'est marrant parce que c'est sur les débats aussi qu'on a, en fait comme on sort de, à chaque fois des saisons en club, on applique des débats qu'on a en club.
Alors
et
qu'on
c'est vrai
pas.
Que même moi j'ai un switch à faire si tu veux quand je rentre dans la Coupe du Monde, parce que je pars de la façon dont tu fais le pressing, le contre-pressing, la façon dont les joueurs sont habitués ensemble,
la façon dont tu utilises tel joueur ou tel joueur.
T'as demandé au Canada de jouer comme l'Allemagne de 70.
J'ai regretté que vous vous satisfaisiez d'un match médiocre. Vous avez aimé. Après,
oui, on s'adapte.
J'adapte mon niveau d'exigence.
C'est vrai que moi, je veux rester un peu sur un niveau Ligue des Champions. Et vous avez raison. Et Samuel Umtiti m'a éclairé là-dessus hier quand il a dit qu'effectivement, ne demandez pas à Didier Deschamps de reproduire un truc avec des joueurs différents de ce qui se fait au Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que
je trouve que c'est très intéressant d'analyser cette adaptation et la façon dont le joueur va évoluer.
Moi, j'avoue que j'ai du mal effectivement parfois parce que je vois une équipe qui commence en disant allez bloc bas, on attend et on va voir. Tu dis, tu vois, un peu football d'un autre âge. Je vois les ballons là, aériens qui se sont renvoyés là pendant dans le match de tout à l'heure pendant 3-4 minutes avec des coups de tête et des gros coups de boule et des touches longues. Je me suis dit, à un moment donné, je dis ok, je vais accepter que la mondialisation du foot.
Tout le monde ne doit pas jouer de la même façon, c'est ça qui est bien.
Moi, c'est ça que j'adore dans la Coupe du Monde, c'est que t'as forcément des continents, des équipes. Tu vois, moi, j'insiste, j'aime beaucoup la Corée du Sud et le Japon. Parce qu'ils sont formés de la même façon, ils ont la rigueur qu'ils ont dans la vie, ils l'ont sur le terrain. Mais comme disait, c'est toi Gilbert qui disait que ça manque un peu, peut-être, des fois de caractère, de vice.
Mais c'est pas leur culture.
Hein, c'est des mecs, ils vont respecter l'arbitre.
Si demain, le Sud-Coréen, il arrive, il veut jouer comme un Argentin, je dis, qu'est-ce que tu fais?
Je pense que le gars qui fera gagner, et moi je suis d'accord parce que j'apprécie beaucoup aussi, et je pense qu'elles vont performer comme d'habitude dans le début de compète, les sélections asiatiques. Et je pense que c'est celui qui les fera gagner, qui les fera aller encore plus haut, c'est celui qui va leur apporter cette touche là supplémentaire.
C'est impossible, c'est culturel, quand tu vois la culture japonaise, tu ne leur feras jamais râler après l'arbitre.
Faut pas abdiquer ça. T'as des joueurs qui sont différents des autres, après c'est des personnalités. Moi je pense qu'il n'y a pas d'essentialisation.
On dit que quand Ginli fasse un frontal avec un arbitre et qui truque et qui va
le gars s'il fait une simulation, il est capable d'aller voir l'arbitre pour dire qu'il n'y a pas pénalité.
Je me souviens d'avoir vu Troussier animer les séances avec les Bafana en Afrique du Sud, et c'était intéressant parce que justement il est travaillé pour aller tout en jouant à parler à l'arbitre, de montrer, de contester, rajouter quelque chose.
Tu pourras pas, c'est quasiment impossible.
Non mais je dis pas, faut jamais dire jamais, je te dis juste que c'est des choses. Je dis pas d'apprendre à truquer, moi. Je te dis juste d'apprendre à être un peu plus malin, d'être un peu plus, tu vois, astucieux.
Je sais pas, vous vouliez pas de ça tout à l'heure.
C'est comme si tu demandes à un Français de pas être râleur, c'est impossible. Ou tu demandes à un Néerlandais
faisons en sorte qu'on ne se ressemble pas.
Tu veux demander à un Néerlandais de pas payer le parking quand il laisse sa voiture au parkmètre, mais c'est impossible. Les mecs, s'ils payent pas le parking, ils se sentent pas bien. Il y a un problème.
Tu es Néerlandais?
Ah, mais bien sûr.
Et moi, je fais quoi d'après toi?
Toi,
c'est quand tu le payes que t'es pas bien.
Mais exactement. Non mais toi déjà tu vas jouer au tennis dans le New Jersey sans payer. Donc
quelqu'un m'a demandé de l'oseille, tu racontes. On m'a rien demandé.
Non mais la note, déjà je t'ai trouvé le cours après, Daniel.
Déjà,
moi j'étais pas bien.
Déjà, j'ai trouvé un cours magnifique.
J'ai vu qu'il y avait des caméras.
C'est
moi, je suis un Hollandais.
C'est ce qu'il faisait. Il me suivait. Il disait, non mais là c'est pas possible. Hein. Là c'est pas possible. On va pas pouvoir jouer là. Il y a quelqu'un qui va nous tomber dessus. Mais quelqu'un va nous demander de l'oseille.
Moi je suis Hollandais.
Des contrats, calme. Kevin, on va y arriver.
Moi je suis Hollandais.
Arrête de faire ton Néerlandais. On va jouer tranquille.
Lui c'est un franco-italien.
On va jouer Renard.
Il prend la chaise. Il la met où il veut.
T'es un Néerlandais, mais t'as profité.
La chaise où il veut. Excuse-moi, c'est Walid qui s'est pris pour un arbitre et qui a commencé à bouger la chaise et à venir s'installer sur la chaise. J'avais pas encore bouger la chaise.
Walid, il voulait prendre la raquette, mais il a vu le niveau, il a dit non, moi j'y vais.
Bon, les gars, dans ce monde américano-mexico-canadien, y a aussi de la Ligue 1. Et oui, parce que Lens a un nouveau coach.
C'est pas vrai.
Il s'appelle Dino Topmoller, et dans quelques instants, Paulo Breitner va tout nous dire.
Peut-être qu'il sera invité de cet homme-là.
Mais c'est.
Il la prépare depuis une heure.
il a voulu faire l'original parce que tout à l'heure il a été dépassé.
Ouais.
Il était sur sa petite barque et on a fait des vagues. Ouais.
T'as vu le
on
niveau,
a fait des vagues,
Daniel,
il a pris. Et là maintenant il a voulu.
Daniel, t'as vu le niveau, la différence?
Celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne.
T'as vu?
T'as aucun pu problème. Lui dire qu'il voulait recruter Michael Carrick.
Ouais, moi je
mais trouve... avoue que ton petit bateau il a pris l'autre tout à l'heure, il faut que je reprenne le dessus.
Flo Gautreau, là tu manques de mordant, franchement.
Ah, là t'as vu le niveau là?
Son arbitre préféré.
Et là c'est on est chez Lidl.
L'arbitre préféré
est plus chez Fauchon.
Non, c'est pas.
Monsieur Fraise?
Monsieur Fraise, bien sûr.
Bien sûr, magnifique. Super, je valide.
Allez, à tout de suite, tout sur Top Moller et puis le reste de l'actu Ligue 1. Avant, ensuite, de parler stats et data, parce qu'on est au pays de la stat et des data ici dans le sport. Le sport américain, made in Kevin Diaz, tout est basé sur la data.
Faut que je me concentre là, faut que je switch le cerveau en mode.
Révise ta table de 8, Daniel, parce que je sais que t'as les mal.
Alors là, pour le coup, les tables de multiplication, je suis injouable.
Attends, il gagne du temps, il gagne du temps.
72. Là-dessus, je suis injouable.
Mais comment c'est possible ça?
De quoi?
Donc t'es pas bon en maths, mais t'es bon en table de multiplication.
Ah, ça je suis un jouable.
12 x 12.
Bah c'est pas, ça rentre pas dans les tables. C'est 144, mais ça rentre pas
8
dans
x
les.
7.
8 x 7, 63.
56.
Merci Daniel.
Bravo Daniel.
Super l'after.
Sortez-le. L'after foot. Intégrale Coupe du Monde.